Eh bien, bonjour, chers auditeurs de Radio Courtoisie, et bienvenue dans ce livre journal de géopolitique profonde. Nous sommes, eh bien, je crois, quelque chose comme le 27 juin, voilà, bientôt le mois de juillet. Je remercie tout de suite à la technique Arnaud, qui réalise cette émission. Si vous avez, chers auditeurs, des observations, des remarques, des questions à nous poser, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez bien sûr par courriel électronique, mais aussi sur le standard, puisque il vient d'arriver justement, donc il pourra répondre. C'est Patrice qui est présent aussi au standard, voilà, donc il répondra à vos questions. N'embouteillez pas trop le standard. S'il vous plaît. J'ai pu voir, alors que ça faisait 2 semaines, pour cause de vacances, que je n'étais pas venu, ni d'ailleurs dans le studio, ni même dans le studio virtuel, vous rendre visite, comme tous les samedis matins à partir de 9h dans ce libre journal. Et j'ai remarqué que néanmoins, eh bien, la dernière émission rediffusée avait particulièrement fait réagir. Donc, écoutez, ça tombe bien, puisque l'émission rediffusée était une émission avec Christian Courbaz. Et au hasard, puisque la programmation de ces rediffusions, eh bien, je n'y avais pas mis mon grain de sel, donc je remercie celui qui n'est autre que Jean-Edouard, d'ailleurs, de Radio Courtoisie, d'avoir programmé cette émission. Elle a beaucoup fait réagir. Alors évidemment, on risquait pas de vous répondre, puisque ce n'était pas du direct. Par contre, étant donné, et oui, puis ça me permet de vous annoncer par la même occasion mon invité du jour, étant donné que je tiens justement Christian Courbaz dans ce studio, c'est vraiment le fait du hasard, ce matin, je profiterai de sa présence pour éventuellement lui repasser, en plus des questions du jour, les questions de la semaine dernière. Sachant qu'il s'agissait de l'émission sur, entre autres, traitant de l'intelligence artificielle,
ah oui, oui.
Qui n'est pas très ancienne comme émission, elle a 6 mois.
Alors là en la matière, c'est ancien, dès que c'est plus de 2 semaines, c'est effrayant, ça va à une vitesse oui, considérable.
C'est exact, ouais. Tout à fait. Donc bonjour déjà et bienvenue dans ce livre journal, mon
merci,
cher Christian.
Merci.
Voilà, Christian Courbaz, présent. Alors, chers auditeurs, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, parce que tout de même, c'est de ce dont on parle, et pour cause. On ne va pas nier, d'ailleurs, le fait qu'il fasse chaud. On ne va pas nier le fait que cette période soit une période caniculaire. Caniculaire parce que les températures, la nuit, déjà, ne descendent difficilement en dessous de 24-25 degrés, ce qui est relativement important, et qu'on monte jusqu'à 40, pratiquement, à Paris, le jour. Donc oui, nous avons une période caniculaire. Alors après, c'est son interprétation, et puis son traitement, le traitement de l'information, sur lequel nous allons, entre autres, nous pencher aujourd'hui dans cette émission. Le titre de l'émission, d'ailleurs, « La canicule » est un nouveau Covid. Et oui, parce que finalement, eh bien, c'est ce qu'on va voir avec Christian Courbaz, on y retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès depuis 2020 de la crise Covid. Le seul élément qui manquera peut-être jusqu'au bout, c'est ce fil rouge qui conduit jusqu'à la vaccination, et je ne pense pas qu'il existe encore ou qu'on va nous refourguer un vaccin anti-canicule, mais par contre pour le reste, hôpitaux surchargés, urgences dépassées, médecins de plateau, on recycle les mêmes, hein, on a retrouvé les mêmes, les Marty, les Mégarban, ils sont toujours là, présents, ils n'ont pas, il semblerait qu'ils aient conserver leur adresse et téléphone dans les salles de rédaction des chaînes d'infos en continu. Donc, ils sont revenus prendre du service, justement, pour la canicule. Il faut croire que les experts du Covid sont aussi des experts réchauffement climatique.
Je ne regarde plus beaucoup la télévision, Christian. Mais est-ce que par hasard le docteur Blachier est de nouveau sur le pont?
Alors non, je n'ai pas vu Blachier. Pense que c'est un des seuls qui manque à l'appel. Je pense que d'ailleurs, de toute façon, il avait assez mal vécu l'épisode du Covid.
Il a raison d'avoir mal vécu, d'avoir tout le monde le détestait, parce qu'en plus il était à peine médecin, c'est ça?
Oui, tout à fait. Oui, c'était plus un chercheur qu'un...
Effrayant. Mais surtout, il énervait tout le monde parce que c'est une théorie personnelle. Il avait le côté Thierry l'ermite. Vous observerez une chose, c'est que dans tous les films, toutes les fictions où il y a un personnage détestable pour le bon peuple, c'est toujours un Thierry l'ermite. C'est un grand lévrier avec plutôt beau gosse, un peu pénible. Le chien vient vous faire des mains gourdes. Non.
Oui. Mais là, il me déconcentre.
Donc, en fait, c'est assez amusant. Mais regardez le dîner de cons. C'est absolument typique de l'imaginaire à la française. Vous avez un bon gros sympathique comme tout. Et vous avez un pénible du genre Thierry l'ermite. Et bien, le problème de Blachier, c'est qu'il ressemble à cette humanité Thierry l'ermite que la France déteste.
Ben, c'est pas... ça s'envisage, en effet. Tout à fait, Christian. Alors, quel est votre... On nie pas qu'il fasse chaud. Par contre, le fait qu'il... Alors, on parlera même pas de la théorie nébuleuse d'un réchauffement climatique de nature anthropique. Mais on retrouve exactement les mêmes ingrédients, la même ingénierie sociale, la même gestion par la peur, la même infantilisation. Là, actuellement, ce dont on ne cesse de parler sur les plateaux télé, c'est la prohibition de l'alcool.
Oui, alors ça, c'est une nouveauté, mais à mon avis, c'est une connerie majeure de leur part. Mais revenons au tout début. La chose sur laquelle j'aimerais attirer l'attention des auditeurs sagace, c'est que les partisans de la théorie du réchauffement climatique qui nous mangera tous, etc., sont très souvent des pervers narcissiques. Plus exactement, vous n'avez aucun pervers narcissique qui soit opposé à cette théorie du réchauffement climatique. Déjà, ça devrait vous inciter à un peu de prudence, un peu de méfiance, un peu de perspicacité.
Et parce que,
la vie sociale adorent la théorie du réchauffement climatique.
Parce que ça permet de persécuter, voilà.
Alors, c'est pas que ça, vous avez raison, mais c'est la thèse favorite des messieurs je sais tout, qui sont souvent des mesdames aussi d'ailleurs, et donc il y a vraiment quelque chose au départ qui doit vous inciter à la prudence. Et puis l'autre chose, comme vous le disiez, c'est qu'il y a une coïncidence du vocabulaire. Des lieux où ça se produit, alors évidemment la Nouvelle-Zélande, puisqu'ils sont en plein hiver, ne va pas nous faire le coup de la canicule. Donc il n'y a pas de Covid là en l'occurrence, il n'y a pas de simultanéité entre les deux hémisphères. Mais il est évident que le coup des hôpitaux débordés, qui nous a été infligé pendant le Covid, alors qu'on a eu plusieurs témoignages selon lesquels certains hôpitaux étaient quasiment vides à l'époque du Covid.
Les cliniques.
Voilà, on est en train de nous refaire le coup. Si ça se trouve, demain, on va nous refaire le coup des TGV en urgence absolue qui vont faire soigner les patients à Rennes.
Pour le moment, les TGV, ils sont plutôt en panne à 50 ils sont en panne degrés dans les tunnels.
Voilà, ils sont en panne dans les tunnels, ce qui n'est pas terrible pour un patient. Donc, effectivement...
Moins 10 ou moins 15% d'offres sur les trains. Par contre, c'est la même chose que pour le Covid. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, ça va dans une espèce de double discours contradictoire. Il fait chaud, donc il y a moins de trains, donc on entasse un peu plus les gens qui ont un peu plus chaud comme ça. Comme avec le virus, plus de facilité évidemment à attraper un virus quand on est en promiscuité.
On peut ajouter ça aussi. Mais alors, l'autre chose qu'on peut percevoir si on est un peu psychologue, et c'est quand même un peu mon métier, je ne suis pas tamponné psychologue, mais je suis romancier, ça revient presque au même.
C'est pas faux.
Eh bien, on perçoit dans le comportement du gouvernement, et notamment et nommément de Macron, un désir d'aggraver psychologiquement la situation afin de pouvoir en tirer parti dans la foulée pour infliger des mesures d'urgence, des conseils de défense, tout ce que vous voulez. Alors, je pense qu'ils vont être giflés une fois de plus par la réalité, parce que même si, et le même si est avec un gros M, ils ont provoqué cette île, c'est-à-dire le camp OTAN, a provoqué ce dérèglement climatique, moi j'en suis à peu près convaincu. Depuis que l'Iran a montré que les barrages se remplissaient après destruction des radars...
des Émirats Arabes Unis, voilà. Entre autres.
Et je pense qu'il y a effectivement anguille sous roche et qu'il y a véritablement des leviers. Et les leviers, on les connaît en Europe, ils sont tous situés en Europe du Nord, en Norvège, en Suède, etc. On a leur nom, hein. Les installations, alors soi-disant c'est pas des harpes, non, mais c'est exactement la même chose. C'est pas le même nom, mais c'est le même procédé. Et il y a une douzaine d'adresses dans les pays nordiques. Qu'est-ce qu'elles font ces usines à radar sur notre atmosphère? On commence à s'en douter, quoi. Jusqu'à présent,
radar, satellite, c'est de la géo-ingénierie.
Jusqu'à présent, c'était de la conjecture pure et simple, mais depuis l'Iran, depuis le bombardement de ces foutues installations, et depuis le remplissage de tous les barrages qui étaient à sec depuis 10 ans, en Irak aussi, etc., on s'aperçoit qu'il y a probablement, une action américaine ou otanesque sur les phénomènes climatiques, et là...
Alors, pour quelle raison?
Mais pour quelle raison? Pour affaiblir les peuples, pour les rendre dépendants d'une fourniture par camion-citerne, par colis alimentaire. En gros, on veut nous gazéifier, c'est-à-dire nous traiter comme la bande de Gaza. On dépend de colis alimentaires parce qu'on n'a plus d'eau, etc. J'exagère à peine. Il y a vraiment ce genre de pardon. oui. Et donc... Il y a une infantilisation très visible de l'opinion publique au sujet de toutes ces questions, et les comportements eux-mêmes sont infantilisables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous oblige à répondre à des mots d'ordre, mentalement, systématiquement. Vous savez, pour tout, désormais, il y a l'équivalent du « mais avec modération ». Dans toutes les situations de la vie ordinaire, vous avez cet équivalent du « avec modération », les sels et ceux, tout simplement. En gros, alors, dans tous ces phénomènes climatiques, l'empreinte carbone, tout ça, quoi, commencent à être... ce souci et cette formulation commencent à être collés à tout ce que l'on fait. Je regardais là récemment, je suis dans une banque en ligne, où tout se passe par Internet, hein, et bien vous avez dans cette banque en ligne je rattrape mon chien qui va sortir du studio. Voilà. Viens ici. Oui, cette banque en ligne dans laquelle je suis inscrit vous indique en permanence quelle empreinte carbone votre démarche auprès d'elle vient d'engendrer. C'est absurde. Vous avez donc, c'est tout cet univers Internet, ces pages Internet un peu diaphanes, avec tout un lettrage un peu grisâtre, on n'y voit rien. D'ailleurs, entre parenthèses, les retraités, les vrais retraités qui ont besoin de grosses lunettes et qui voient ces sites Internet fabriqués par des graphistes à la con où toutes les lettres sont graciles. Bon, l'un des petits cartouches informatifs dit que vous avez dépensé tant d'unités CO2 en faisant cette démarche auprès de notre banque. Bon, on est tombé sur la tête.
Et totalement.
Tombé sur la tête. Alors déjà, le vieux monsieur qui consulte son compte. Alors en plus, le paradoxe, c'est un compte où il y a...
On est tombé sur la tête où on nous les attribuera. C'est-à-dire qu'on aura un quota de CO2, point. Il doit y avoir une raison autre que publicitaire.
Entraîner à un système futur.
Oui,
moi, je suis comme le devin de ma rubrique.
Social,
les personnes qui ont l'amitié de suivre ma rubrique sur Internet.
Voilà, campagnol.
Voilà,
gens de campagnol.
Ils s'apercevront qu'elle a été...
Le Novax Bar.
Que j'ai toujours été convaincu qu'on nous... Que tout ça finirait bien. C'est-à-dire que j'ai un devin dans cette rubrique, qui est un peu un mathématicien, un peu poète, et qui dit qu'ils essaient au maximum de fabriquer ce monde invivable, comme dans Brésil de Terry Gilliam, mais que ça ne marchera pas. Parce que, heureusement, ils vont s'effondrer d'eux-mêmes. Et le premier à s'effondrer sera probablement l'Amérique, qui a été notre guide dans ces domaines.
Ouais.
Et l'Europe, d'ailleurs, en ce moment, c'est ce qui se passe avec Merz, Starmer, etc.
Ouais.
Ils essaient tous de se fédérer pour résister vent debout contre l'effondrement du système américain qui les a promus. Et ils n'y arriveront pas, parce que le fameux état profond américain, celui de Biden, celui de tous les dossiers cachés, va mordre la poussière.
Le dernier fantasme en date des Européens, c'est une fédération à 6.
Oui, c'est ça.
Les
6
principaux États.
Oui, parce qu'ils ne sont pas sûrs des autres. La Slovaquie, la Hongrie, etc. sont des États qui disent non merci. D'ailleurs, entre parenthèses, on en arrive à la conclusion que j'avais tirée d'un livre que j'ai publié en 92 ou 93 qui s'appelait « De l'Est, de la peste et du reste » où je disais à un Hongrois, vous allez devoir sortir de ce système dans lequel vous êtes entré par erreur. Je ne dirais pas par effraction, je dis par inadvertance. Ils sont entrés dans l'Europe par inadvertance, ces pays, la Hongrie par exemple. Ils sont entrés dans l'Europe parce qu'ils pensaient que ce serait sans dommage pour leurs valeurs traditionnelles. Eh bien, ce n'est pas le cas. Dans ce petit livre dont je vous parle, « De l'Est, de la paix et du reste », je disais à un poète hongrois, ne vendez pas vos valeurs à l'Amérique, vous devrez les racheter très cher.
Ah.
C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Et par bonheur pour nous, ils vont devoir ravaler leurs prétentions, tous les Américains. Et ils le sentent d'ailleurs, c'est le sens de cette fameuse proposition à 6 dont vous me parlez. En gros, la Pologne, la Slovaquie, la Tchéquie, la Slovénie, etc. Tout ça, c'est des pays qui ne peuvent pas supporter l'idée des immigrés à tire-larigot, de devoir adopter le rap à la place de la musique de chambre. Quand vous allez dîner en Hongrie encore aujourd'hui, qu'il y a des gens relativement bien élevés, un peu cravatés, les filles font de la musique de chambre après le dîner. Il n'y a pas un seul pays d'Europe, même en Espagne, même au Portugal, où ça se fasse encore. Donc, en gros, l'Europe centrale est restée, devenue, par force, un conservatoire de toutes ses valeurs.
Oui, c'est le glacis communiste.
Le glacis communiste qui a fait que la culture ordinaire est très grande. Ces gens ont une culture de manière naturelle. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple, parce que c'est des exemples de journalistes, j'y peux rien, j'ai voyagé à travers la terre entière dans des conditions un peu particulières. À l'ouverture des frontières, je vais faire un voyage dans le Grand Nord russe, et on débarque avec un petit bateau de croisière à 20 cabines seulement, on débarque au-delà du cercle polaire dans des villages improbables. Je me souviens d'un d'entre eux qui s'appelait Turuchansk. Sur le rivage, des gamins de 15 ans vendaient des aquarelles. Admirablement peintes, visiblement peintes à la main. Et le type, le jeune de 15 ans, parlotait un français acceptable. Je dis, mais attends, c'est toi qui peins ça? Oui, oui. Et ton français, il vient d'où? De la bibliothèque.
Ah.
Au-delà du cercle polaire en Russie, il y a 20 ans, les enfants de 15 ans avaient appris le français à la bibliothèque. Aller chercher un gamin du Sénégal qui a appris le latin à la bibliothèque. En France, je veux dire. Voilà, en gros, ces gens-là nous vaincront un jour, quand je dis nous vaincrons par le mental, parce qu'ils ont gardé ce qui faisait les vertus européennes. Et alors ça, c'est sur le plan des neurones. Puis il y a également tout ce qui est culture, parce que les Russes, les Lettons, les... En gros, tout cet axe du communisme tardif qui a baissé sa garde tardivement, tout cet axe est convaincu que l'immigration folle est anticulturelle pour l'Europe pour une simple raison, c'est qu'un jour ou l'autre, des noirs musulmans un peu fâchés, un peu avinés, vont commencer à casser les seins des statues sous les balcons. Or, les seins des statues sous les balcons, c'est l'un de mes vieux thèmes, c'est l'Europe. De la Lettonie à la Sicile, les cariatides,
les
femmes dénudées au fronton des bourses du commerce, c'est notre Europe. Et notre Europe ne peut pas être négociée avec les musulmans du tiers-monde un peu fâchés contre nos seins nus. Ça ne peut pas se négocier. Ça s'accepte ou ça s'accepte pas, et si ça s'accepte pas, ça se barre. Voilà, c'est tout.
Et on en est là.
C'est-à-dire que c'est intéressant parce que la Pologne a très très bien compris qu'on va en arriver à ce débat profond là. Faites le test visuel. J'ai déjà fait ça. D'ailleurs, j'invite les gens, s'ils veulent un point sur cette question, un point visuel aussi, puisque j'ai fait défiler un diaporama derrière moi. Ouais. Sur Internet, j'ai fait une petite conférence minuscule de 20 minutes qui existe encore, pour combien de temps, je ne sais pas, qui s'appelle « L'Europe des seins nus sous les balcons ». Donc, vous demandez dans YouTube qu'on base « L'Europe des seins nus sous les balcons » et vous aurez cette intervention que j'ai faite il y a des années, où j'explique très bien que le point ultime de confrontation des deux mondes mentaux, c'est bien celui-là. C'est-à-dire qu'en gros, à la rigueur, un mondialiste américanolâtre vous dira, à vous Lettons ou à vous habitants de Bruxelles, « Bon, mais qu'est-ce que ça vous fait qu'on enlève les statues sous les balcons ?» Si c'est pour un meilleur vivre ensemble avec nos amis sénégalais. C'est à peu près ça. On en est là. À la limite, les grands mondialistes américains vous expliqueront qu'ils ont toujours trouvé que les seins nus sous les balcons, c'était pas conforme aux valeurs universalistes. D'ailleurs, on en voit très peu aux États-Unis. Il y a eu un résiduel de la culture européenne vers 1900 à New York, mais les seins nus sous les balcons, on les voit quasiment jamais. C'est un débat sur lequel j'invite les auditeurs à se pencher. Ce petit sujet YouTube fait vraiment un point très précis sur cette problématique, comme on dit, et sur la raison pour laquelle les pays de l'Est seront un jour notre salut. Parce que les pays de l'Est ont très bien compris que l'immigration forcenée que nous subissons, c'est la négation absolue de ce que nous avons toujours bâti depuis 2000 ans. Donc il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Hein.
C'est lié beaucoup à l'éducation. Hein. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le communisme, mais ils avaient
mais ne serait-ce que moi, de mon temps, chez les jésuites, on étudiait Suétone. Suétone, c'est quand même... c'est pas à mettre entre toutes les mains. Il y a des histoires de tout, d'inceste, de crimes, de machin. La vie des empereurs romains par Suétone, c'est quand même incroyable. Alors même si c'était en latin, c'était quand même très croustilleux. Eh bien, aujourd'hui, il y aurait probablement des familles qui iraient glapir au rectorat pour qu'on cesse d'étudier Suétone en classe de latin, s'il y avait encore du latin. Ce que je veux dire, c'est que toute cette histoire des mœurs et des mauvaises mœurs européennes qui ont quand même fabriqué l'Europe, elle va être un jour ou l'autre épurée, comme l'a été le Louvre à Abu Dhabi avant qu'on envoie les œuvres. Vous savez, on a envoyé quelques œuvres pour être dans un bâtiment ultra climatisé à Abu Dhabi. Je vous garantis que les sujets des tableaux, c'était pas l'enlèvement des Sabines. Tout le monde était
par
bien.
Les Sabins.
Voilà, tout le monde était bien cravaté sur les tableaux parce que la police des mœurs de Abu Dhabi l'avait exigé. Donc, en fait, je ne veux pas de ça chez nous. C'est tout simple. Nous avions réussi à bâtir dans les années jusqu'aux années 1900 un système extraordinairement équilibré. Où l'industrie, les manufactures, la technologie, la science, tout ça, l'école polytechnique, tout ça se mariait à la poésie, aux filles en voile un peu dénudées avec un sein qui sort, etc. Il y en avait même sur les boîtes de biscuits. On avait fait un monde qui était moitié-moitié. Moitié allumeur de réverbères et moitié gaudriole, embrassons-nous Folleville, Théâtre de la Biche, Offenbach. Ça, c'était l'Europe équilibrée des années 1880. Et depuis, les chieurs principalement protestants, donc anglais et allemands, n'ont jamais cessé d'essayer de nous infliger le système inverse. Le système collémenté, le système de la réforme, le système on montre pas de seins nus, on roule pas sous la table. Alors qu'en fait, ce sont des hypocrites, parce qu'on a bien vu que dans l'Europe marchande de l'après-guerre, sur le plan touristique, ils venaient faire ce qu'ils réprouvent chez eux, ils venaient le faire chez nous. Comparer la vie quotidienne d'un Suédois vis-à-vis de l'alcool, des femmes, etc., à Stockholm, et quand il se déplace à Barcelone, c'est pas le même homme.
Oui.
Voilà.
Vous retrouvez ça avec la prohibition de l'alcool aussi.
En plus, alors là, on en revient à notre sujet. c'est une connerie majeure qu'est en train de faire le gouvernement, ou bien ça dure deux jours, et là, il n'y a pas péril dans la demeure, ou c'est une idée vague qu'ils ont d'essayer de contraindre la population de cette manière-là aussi, et là, ça va se passer extrêmement mal. Parce que d'abord, il y a objectivement un certain nombre de gens qui sont alcooliques de fait, sans le savoir vraiment, mais qui boivent 12 bières par jour en disant non, c'est simplement que j'ai soif.
Ben oui.
12, ça fait trop. Et donc, il y a pas mal d'alcooliques qui s'ignorent. Et le jour où on leur ferme le robinet, ils s'ignorent plus. Hein. Donc là, à ce moment-là, vous allez voir que il n'y a rien de pire que la colère d'un alcoolique qui voit une nasse se refermer sous ses yeux, quand il a plus accès au coffre à liqueur et que son frigo est vide et qu'il n'y a plus de bière, il s'énerve. Et là, si le gouvernement veut vraiment que la rue s'énerve, sans gilet jaune, mais qu'elle s'énerve vraiment contre le lampadaire et contre les commissariats, ils n'ont qu'à continuer. Vous allez voir.
Oui. Mais de toute façon, on voit que tout est à géométrie variable, hein, et qu'il y a une ingénierie sociale derrière, quelle qu'elle soit.
Là, en l'occurrence, avec l'alcool, elle serait un peu américaine sur les bords, parce que, au fond, ceux qui ont l'obsession de l'alcool en public et de ne pas le montrer, de ne pas le boire, enfin bref, la prohibition rampante, c'est les Américains, parce que je vous rappelle qu'à New York, on peut pas boire une bière librement, il faut la couvrir d'un petit sac en papier, encore aujourd'hui, hein.
Ouais.
Donc la boisson d'une bière en public est interdite. Mmh. Mais la vente, par exemple, de l'alcool aux mineurs, le fait que en Suède on puisse pas acheter de l'alcool si c'est pas dans un magasin d'État, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Europe du Nord est complètement bavante littéralement quand elle débarque à Avignon, ils achètent du rosé par six-pack, par cubiténaire entier, toujours la crainte de manquer. Un rosé, vous pensez, un rosé à 4,50, alors que chez eux, c'est 40, hein.
Hey.
Si vous avez un cubit 3,5
litres... Il y a énormément de taxes.
Voilà, enfin c'est absurde. On est tombé sur la tête, mais ce que j'aimerais, c'est que l'Europe du Sud, la nôtre donc, l'Europe intelligente, ce que je dis, c'est que enfin, nous sommes quand même à l'origine, nous, Italie, France, Portugal, Espagne, etc., nous sommes à l'origine de la plupart des grandes réalisations mentales sur ce continent. Certes, il y a quelques usines et quelques locomotives qui ont été fabriquées outre-Rhin, mais ça compte peanuts. À l'époque de la Renaissance, c'est les Allemands qui venaient chercher leurs recettes pour bien vivre en Italie, hein, je vous le rappelle. Et donc, voilà, c'est ça, l'Europe, c'est ça. L'Europe, c'est un mélange entre des neurones bien organisés, et nous les avons, et ça c'est transmissible. Ça, moi, je crois beaucoup à la génétique de l'intelligence. Donc ça, c'est un capital de départ qu'on ne pourra jamais nous arracher. Enfin, si on peut éventuellement éventer ce capital génétique de l'intelligence en pratiquant le métissage forcé. Je ne dis pas que le métissage soit pas souhaitable. Je dis qu'il n'est pas souhaitable d'y obliger,
oui.
D'y inciter.
Ah, bien sûr.
Or, on y incite littéralement les gens, comme s'il fallait littéralement diluer nos nations dans un ensemble plus vaste et de moindre qualité.
Un auditeur, bonjour. Pour moi, le temps ne se dérègle pas, mais se règle. En effet, j'ai toujours été étonné qu'au moment du solstice, et disons que le mois de juin ne soit pas le plus chaud, alors que l'ensoleillement est au maximum.
Oui.
Il ajoute, Bernard Clavel a fait une description extraordinaire de la canicule subie par un couple de vieux dans leur maison, qui dure 8 jours dans l'un de ses romans de la maison des autres.
Bah oui, de toute façon, honnêtement, ces phénomènes de canicule ne sont absolument pas réservés à notre époque. Je ne suis même pas sûr que leur fréquence s'accentue. En tout cas, je vous rappelle, je vous renvoie plutôt à la première phrase du roman célèbre de Flaubert, Bouvard et Pécuchet, qui est « Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert ». Ça, c'est la première phrase de Bouvard et Pécuchet, qui a été écrite en 1875-80.
La preuve.
Et donc, ce n'est pas nouveau. Ce n'est évidemment pas nouveau. Moi, d'ailleurs, j'ai suffisamment maintenant de bouteilles pour dire que dans mon enfance, je me souviens très bien, ou de ma jeunesse, je me souviens très bien avoir passé des juin-juillet absolument caniculaires sur ma moto, sur mon vélo, dans une campagne française complètement desséchée, Et à l'époque, on trouvait que c'était presque festif, quoi. À l'époque, on jugeait que c'était une espèce de fatalité qu'il fallait subir de temps en temps, mais ça n'avait rien de sinistre. Or, aujourd'hui, vous voyez, bah, ne serait-ce que ma mère, qui a passé 95, ma mère complètement conditionnée par la télévision, prend un air absolument lugubre dès qu'elle parle de la sécheresse. C'est quand même, c'est effrayant. On a conditionné les vieux à considérer que c'était un désastre absolu.
Un désastre absolu, et on rappelle la canicule de 2003 avec son cortège de morts, entre autres dans les maisons de retraite, les EHPAD, ouais. Une quinzaine de milliers. On a depuis fait travailler les gens le jour de la Pentecôte,
oui,
et gagné l'équivalent de 36 milliards d'euros.
Ouais, on aime à
savoir ce qu'ils sont devenus.
Vous savez, c'est la même chose que nos économies en général, que les trésors de guerre des caisses de retraite. Agir Carco, etc., était très, très excédentaire. On avait un trésor de guerre, je ne sais plus le chiffre, mais qui a été laminé par le gouvernement. Ils nous font les poches. Toutes ces caisses de retraite étaient très avisées. Elles avaient réussi à mettre pas mal d'argent de côté. Et ça a été ponctionné par l'État de manière honteuse. Ça a été, en fait, il y a eu des péréquations, quoi, en gros. Mais c'est effectivement un véritable hold-up organisé au niveau le plus élevé. Et l'argent qui est volé ne sert pas à ce pourquoi il a été voté. Là, vous avez un bon exemple pour les pièces jaunes. Quand les gens ont versé les pièces jaunes pour venir en aide aux enfants malades,
ouais,
et dans les hôpitaux, il n'y avait aucune intention de venir en aide aux enfants harcelés sur Internet. Or, cet argent a été détourné d'une cause vers l'autre. Par qui ? Je vous le rappelle pas, vous le savez tous. Et ça se paye un jour. Ça se paye un jour.
Ouais.
Ça tombe sous le coup de la loi. Ça tomberait sous le coup de la loi pour n'importe quel directeur d'association. Aujourd'hui, si je fais une collecte générale sur Internet en disant « Aidez, par exemple, les clowns en détresse, puisque au moment de la retraite, ils n'ont plus assez d'argent, etc. » Et puis que cet argent récolté, je l'utilise à autre chose, explicitement, au vu et au su de tout le monde, je suis passible des foudres de la loi. Et pourquoi pas notre ami IE ? Elle le sera. Alors, elle le sera, à moins qu'elle aille se cacher avec des lunettes noires en disant « Laissez-moi tranquille, je suis
là ». Là, on est en train de nous parler de Brigitte Macron, voilà, chers auditeurs, voilà, hein, pour ceux qui n'auraient pas aperçu le
Donc là, il n'y a aucun doute. On nous dit « Oui, il y a des choses qui sont encore du domaine de la conjecture, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon ». Mais là, en l'occurrence, on sait que c'est une trahison par rapport à ceux qui ont donné de l'argent. Ça a trahi le but d'origine, au bénéfice d'amis qui sont de mèche, qui achètent des locaux importants et qui augmentent leur salaire. Donc ça c'est une véritable haute trahison. Et normalement, le tribunal correctionnel doit s'en occuper. Il va peut-être le faire.
Vous avez la même chose avec Schiappa et le fonds Marianne.
Voilà, hein, absolument.
C'est les mêmes.
Absolument. Et donc voilà, bon, on vit une époque assez particulière où les lanceurs d'alerte sont eux-mêmes en danger, qui n'est pas jamais très bon signe, puisque c'est le cas sous Néron. Hein. Je vous rappelle que sous Néron, il envoyait le poison en disant « t'as jusqu'à mardi matin pour te suicider ». Moi, je ne vois pas beaucoup de différence avec des cas récents, hein. Sauf que là, on ne leur a pas envoyé le poison directement dans une enveloppe. Des amis sont passés le livret. Mais là encore, ils ont intérêt à blinder leur affaire, parce que le jour où les vraies commissions d'enquête seront ouvertes, ça va débiter. Hein,
ouais.
Et on a l'habitude, on l'a fait 20 fois dans notre histoire. Il ne faut pas penser qu'un système futur plus vertueux, plus intelligent, plus soucieux de la vie des gens puisse naître sans une remise à plat préalable. Donc il y aura punition préalable. Donc on les retrouvera tous, c'est simple, on les retrouvera tous. Il y aura des box à 48 personnes, j'en suis convaincu. À 48 personnes, ceux qui n'y seront pas passés sur le moment. Comme dans les grands phénomènes historiques français, ça s'est toujours passé comme ça, sauf que les box n'étaient pas en plexiglas à l'époque, mais ni climatisés.
Là, vous avez Nuremberg aussi.
Oui, c'est ça. Oui. Je pense qu'on va tout droit vers des choses assez comparables, et d'ailleurs même sous inspiration américaine. Que les Américains donnent le là pour tout, comme ils vont probablement procéder à une espèce de remise à plat globale aux États-Unis, les complices de ce système, et ça commencera par les complices du système Epstein, vont tomber en France aussi, en Europe aussi. Mais en France principalement, parce qu'on est la plaque tournante. Donc il faut s'attendre à ce que... En plus, les Américains sont assez mauvais gars dans ces cas. Ils finissent par laisser entendre que c'est la méchante France avec son côté envoyons-nous en l'air, hérité du Second Empire, qui a perverti ces bons Américains au point de d'imprimer au système Epstein un tour tellement licencieux que... En fait, on va nous dire qu'en gros, c'est l'excès de licence du système Epstein est une conséquence de la licence traditionnelle européenne et notamment française. Vous allez voir, c'est oh oui, c'est bon. On va le système Trump a tout à fait le pouvoir de détourner la culpabilité globale du système américain vers nous. En gros, ce serait une sorte de péché. Classique du monde de la mode et du showbiz qui a carrément sa capitale à Paris. Et comme il est certain que la mode, notamment la mode pour enfants, pour jeunes filles, est complètement liée à ce système de trafic d'êtres humains, le Brunel était plus que pas clair. On va essayer de charger énormément le Brunel pour nous dire qu'en gros, Epstein, lui, travaillait uniquement dans les recherches sur la cellule.
Oui.
D'ailleurs, je pense que c'est le cas. Epstein travaillait sur les recherches sur la cellule, notamment le clonage, la culture de cellules de régénérescence permanente.
Souche,
je pense que ce qu'on n'a pas encore trouvé dans l'affaire Epstein, c'est ça. C'est probablement un système d'exploitation de la biologie de la jeunesse au profit de la vieillesse.
Ce qui éventuellement se faisait aussi aux Auroranges, hein, puisqu'il n'y avait pas que l'île Epstein.
Oui, oui. Alors,
aussi,
il ne faut pas non plus croire que c'est une nouveauté, puisque la science-fiction en est pleine, et que même au XVIIIe siècle, il y avait l'équivalent. On en retrouve même dans la Renaissance italienne, cette idée que l'on puisse boire le sang de jeunes victimes pour se régénérer est une idée très ancrée dans l'imaginaire européen. Mais là, si vous voulez, si ça s'appuie sur des choses scientifiques, là, le criminel devient systématique, devient codifié, devient... En plus, c'est toujours plus ou moins souterrain. En plus, il y a cette histoire invraisemblable de mise en esclavage, littéralement, d'enfants de 10 à 15 ans. Les filles, probablement, pour des raisons d'ovocytes. J'ai lu à toute allure, mais j'enregistre tout ce que je lis, des témoignages de filles de 15-16 ans qui avaient été prisonnières sur l'île pendant une année et qui disaient « Mais moi, j'ai pas vu beaucoup de prostituées, hein, j'ai vu surtout beaucoup de scientifiques. » Ouais. Première réflexion. Deuxième réflexion, moi j'avais l'impression qu'ils s'intéressaient beaucoup plus à mes ovocytes qu'à mes seins. Gamines de 15 ans.
Ouais.
Donc ça, c'est des gamines qui ont osé parler. On sait qu'il y en a qui ont osé parler, qui sont mortes après avoir dit « je vais sûrement mourir à cause de ça ». La fameuse Virginia Giuffre, là,
oui,
c'est quand même incroyable qu'on ait un témoignage aussi limpide, aussi circonstancié, avec des noms, avec une tentative d'assassinat une première fois, puis elle a été protégée pour être emmenée dans un ranch protégé encore, où elle dit, elle enregistre là un témoignage selon lequel elle va probablement être suicidée, mais qu'elle dit à tout le monde qu'elle n'est pas suicidaire, et on la retrouve suicidée 3 semaines après cet enregistrement, et la planète entière n'est pas en ébullition. Sachant qu'elle a fréquenté...
Alors comment vous expliquez justement que finalement l'affaire Epstein, pourtant même les grands médias en ont parlé, la planète ne soit pas en ébullition justement?
Parce qu'ils touchent tous. Quand vous dites la planète, c'est les médias.
Mais bien sûr.
Les médias, pas forcément ils touchent tous, mais ils ont très bien compris que leurs 7 briques, enfin leurs 7000 euros de salaire pour un journaliste haut de gamme, qui pond 2 articles par semaine et qui passe le reste de la semaine à bouffer dans des brasseries à 80 euros par tête. Ça, c'est le quotidien d'un journaliste haut de gamme à Paris. Ils veulent pas troquer ce système, parce qu'en plus, il y a derrière des gens qui profitent de ce système, à savoir leur épouse qui est inscrite à la gym, leurs enfants au cours de tennis, leur appart du 16e qui coûte une brique par mois de loyer. Enfin, tout ça est un ensemble qui fait qu'ils sont liés par leur mode de vie à une interprétation de la vérité qui leur est insufflée. Et donc voilà, ils n'ont aucun intérêt à raconter, même s'il s'agit de crimes, ils n'ont pas intérêt à dénoncer ce qu'ils voient.
Mais il y a une désinformation absolument incroyable, de toute façon. Il y a justement, la semaine dernière, on avait parlé dans cette émission enregistrée de l'affaire Epstein, et un des auditeurs fait la remarque en disant « Mais comment peut-on, a-t-on pu, il faut que je retrouve le message exact qui avait été envoyé à ce moment-là, mais qui expliquait comment peut-on imaginer une seconde que Epstein était un agent du FSB ?» Mais ça, on a essayé de le faire croire.
FSB, c'est quoi, pardon ?
KGB.
Le KGB. Ah oui, oui, d'accord. Oui, bah oui, évidemment. Mais ça, ils essayent tout. Ça. Il y a quand même le pire de ce qui nous est arrivé dans le domaine de l'absence de pudeur à ce sujet. C'est Macron se faisant pousser le museau par Brigitte à la sortie de l'avion. Donc, on l'a tous vu.
Et, ah oui, mais bien sûr.
Attendez, la première thèse, celle qui nous a été livrée à la sortie de la passerelle, c'était que les Russes avaient fabriqué cette scène avec une intelligence artificielle.
Bien sûr.
Ils ont quand même essayé ça.
C'était à Hanoï, sur le tarmac.
Il faut quand même le faire. Des gens capables d'une chose pareille sont complètement cinglés. Même chose pour le petit sachet qu'il a fait disparaître sous son coude. Qu'est-ce que je dis il disait que c'est une intelligence artificielle, que c'est impossible à faire. Et moi, en fait, immédiatement sur X, j'ai fait réapparaître le truc par une intelligence artificielle. Il n'écoute pas, il regarde son téléphone
portable. C'est pas ça, bien sûr, j'écoute, mais je retrouve le message
oui,
en même temps.
Quoi
donc, de cet auditeur, bonjour, comment peut-on faire croire que Epstein travaillait pour les services russes sur le sol des États-Unis, non seulement sous le regard des services américains, et en plus en exerçant le métier de banquier mondain, ouais, invitant tous les politiciens les plus importants, les artistes. Il est bien évident qu'il travaillait à la fois pour les Israéliens et pour les Américains, même si leurs intérêts divergent souvent. Il faut vraiment nous prendre pour des pélicans à gros bec, avec un mépris total pour l'intelligence des gens. Vous voyez,
c'est sûr, c'est sûr.
J'allais vous recaser les messages de la semaine dernière.
C'est sûr. Alors il y a un lien tout de même entre l'affaire Epstein, je bondis sur ce lien, et un autre sujet que j'aimerais évoquer, et nous sommes plus ou moins entendus pour que vous me permettiez de l'évoquer, c'est celui de la vieillesse, parce que...
Bah, on aurait pu en parler déjà avec la canicule, parce qu'elle frappe d'abord les personnes âgées, tout comme les 36 milliards amassés depuis 2003 est censé servir à la grande dépendance des personnes âgées.
Ouais. Bah, cela dit, les personnes âgées, j'en fais partie désormais, j'ai traversé Paris là, depuis une semaine, tous les jours par 40 degrés, avec mon vélo... Le seul qui avait vaguement, qui a haleté vaguement, c'était mon chien dans le panier derrière. Mais il n'y a rien. Pour un vieillard d'autrefois, 40 degrés, ça n'avait rien d'exceptionnel. C'est tout simple. Cette idée que la chaleur doit être médicalisée est une idée très moderne. Bref. Tout ça pour dire que dans l'affaire Epstein, il y a, à mon avis, une énorme composante de ce thème éternel de la jeunesse artificiellement rattrapée par le traitement des cellules. On nous dit comment fait Keith Richards pour, à 80 ans, être encore debout malgré tout ce qui s'est envoyé comme champagne, comme gonzesse et comme cocaïne. Eh bien, il y a hélas 2-3 explications, dont le fait que les Stones, comme plein de gens du showbiz, se faisaient régénérer le sang en Suisse pendant 3 semaines. C'est connu. Vous installez dans une clinique, on vous fait une transfusion par jour de sang compatible de quelqu'un de 18 ans et vous vous sentez un autre homme au bout de 3 semaines. Et bien ça, c'était commun dans les années 70-80. Je pense qu'on est passé à un seuil nettement supérieur, hélas. Et qu'avec Epstein, on est carrément dans le traitement de la cellule elle-même, on est dans le traitement criminel de la cellule elle-même. Criminel pourquoi ? Parce qu'il faut bien l'extraire de quelqu'un. Et il est très probable que Epstein se livrait à des expériences de clonage. Alors pour les gens qui penseraient que c'est une conjecture pure et simple, de ma part, je vous rappelle là encore un témoignage d'une jeune prisonnière du système Epstein de 15-16 ans qui racontait qu'elle avait vu 3 fois sur l'île et dans le ranch Zorro, dans l'Arizona, le cinéaste canadien Michael Bay, B-A-Y, qui a fait quoi ? Juste après ses visites sur l'île, oui. Il a fait un film, il a produit et réalisé un film qui s'appelait The Island.
Oui.
Bizarre ! Que raconte ce film que je me suis infligé, qui n'est pas d'ailleurs, qui n'est pas nul, qui est très malsain, mais qui n'est pas nul sur le plan
et je vois.
Réalisation. Ouais. Ça raconte une humanité un peu dans un bocal, un peu, avec des numéros, qui pense être appelée sur une île merveilleuse où tout est facile. Et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont des clones. Qui sont appelés sur l'île pour livrer, par exemple, leur foi à l'auteur de leur jour, qui, lui, est un riche financier qui a livré des cellules il y a 20 ans et pour avoir des pièces détachées. Donc c'est quand même c'est très terrible, parce que cette chose issue du cerveau d'un cinéaste canadien nous rappelle tellement l'île d'Epstein qu'il y a forcément une allusion, même lointaine, c'est une allusion. On est dans le même esprit, là. Et je crains que ce qu'on découvre soit au-delà de toute imagination. Et là encore, le tiers-monde va nous en vouloir énormément, à nous, occidentaux, parce qu'on nous dit qu'il y a de la prostitution des mineurs en Asie, aux Philippines et partout en Thaïlande. Oui, mais attendez, avec l'affaire Epstein, on a pulvérisé ce plafond. Il ne s'agit plus de prostitution des mineurs, il s'agit de leur dépeçage. Vous voyez ? Et donc, là, quand même... Ouais, alors, ce que je vous dis là, ce n'est pas là non plus de la conjecture pure, puisqu'on a des films... vidéo de magistrats américains qui quittent les locaux du ministère de la Justice, que la caméra ramasse sur les marches. On leur dit alors, qu'est-ce que vous avez vu ? Et le type dit, j'aurais préféré ne pas le voir. Donc en gros, ce que contient les bandes de Epstein a l'air absolument dégueulasse. Et toute l'explication du retard à la révélation tient au fait que la dévastation dans l'opinion en défaveur de l'Occident vaut-elle le coup ? Certes, la vérité triomphera, mais est-ce que nous globalement, nous n'aurons pas un genou à terre pendant très longtemps vis-à-vis des Chinois, etc., vu ce qu'on a laissé faire ?
Mais c'est plus que probable, c'est certainement la raison qui d'ailleurs pousse Trump à freiner les cas de fer à
sa divulgation. Absolument, ouais. Y compris dans l'affaire Brigitte, mais ça, c'est pas notre sujet. Mais je pense que l'une des raisons pour lesquelles Trump a verrouillé, c'est qu'il veut pas que Candace Owens révèle les méthodes de la CIA des années 70-80.
Oui, par rapport à l'affaire Brigitte.
Je pense que un élément du passé de notre ami a un lien avec les méthodes de la CIA dans les années 80. Pour ne pas être plus précis... ce que le dossier...
Ou même années 70.
Oui. Mmh. Mais pour l'instant, on n'est pas suffisamment au courant de tout le dossier pour pouvoir affirmer quoi que ce soit. Mais Candace Owens est allée plus loin et le fait qu'elle se soit arrêtée en route témoigne que Trump a dû lui dire, parce que moi là encore, je soupçonne, je le fantasme comme romancier, écoute, je vois très bien où tu veux en venir, moi ça m'arrange pas parce que tu vas foutre jeter le discrédit sur la politique américaine souterraine, tu auras gain de cause, on prouvera un jour ou l'autre que tu avais raison, mais sur ces histoires d'histoire de la CIA et des manipulations mentales de la CIA dans les années 80, on va faire l'impasse. Et c'est probablement le marché qu'elle a accepté. C'est pour ça qu'elle ne se fâche pas beaucoup. Elle a accepté de changer de braquet. Maintenant, elle ne parle plus que de Charlie Kirk et de son assassinat.
Candace Owens.
Oui, Candace Owens. Oui, pour les gens qui nous écoutent et qui ne sauraient pas, je résume, c'est une journaliste américaine, influenceuse, tout ce qu'on veut, assez friquée, mariée assez bien à un lord anglais qui balance sur la vie souterraine américaine et qui, malheureusement pour elle, a un ami qui s'est fait flinguer quasiment sous ses yeux. Et cet ami, visiblement, était sur le point de dénoncer l'influence israélienne aux États-Unis. Et ça, c'est le crime de lèse-influence qu'on ne doit pas commettre. Et alors donc, comme elle est assez coriace, elle a dit « moi, je veux la vérité ». Et elle est en train de montrer un système incroyable de complicité invraisemblable, lié sans doute à l'armée, où le type a été mis à mort par des moyens qui n'ont rien à voir avec ce qu'on nous dit. Soi-disant, c'est un tireur sur un toit. Le type était à peine au courant de ce qu'il faisait sur le toit. Tout le monde est convaincu que c'est pas lui qui a tué.
Oui, un LGBT fou furieux.
Ouais. Mmh. Tout le monde est convaincu que c'est plutôt un dispositif automatique qui a tué le bonhomme. Enfin bref, je vois que les questions pleuvent. On va s'arrêter pour y répondre.
Alors, on va déjà s'arrêter, mon cher Christian. Ouais. Vous savez pourquoi ? Pour un court Bobino.
D'accord.
Déjà, pour commencer. À tout de suite.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
M'interroger sur le...
Alors ça y est, vous savez que ça a repris.
Pardon. Ah bon, voilà. T'as déjà repris.
Donc là, Christian Combaz est en train de donner les consignes au patron d'émission, chers auditeurs. J'ai été surpris.
Bon. Mais ne manquez pas, il n'y a pas de mystère, ne manquez pas de m'interroger. Ça veut dire que je serais content de pouvoir répondre à la question. Qu'y aura-t-il dans votre prochain livre ? Voilà.
Alors, chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le livre journal de géopolitique profonde. Notre invité du jour, Christian Combaz. Nous allons, bien sûr, chers auditeurs, passer en revue vos questions de la semaine. J'en ai même déjà posé une question de la semaine dernière. Mais, en effet, auparavant, peut-être, avant de répondre aux questions, nous pourrions, en effet, chers auditeurs, bien poser cette question. Justement, on était sur l'éloge de la vieillesse, en un échange qui était parti un petit peu après sur l'affaire Epstein avec Christian Combaz. Donc, en effet, vous avez, on rappelle votre dernier ouvrage à l'endroit.
Mmh. Hein,
c'est-à-dire à l'endroit, essayer de remettre à l'endroit cet envers avec un diable qui voudrait être à la fois le mal mais aussi le bien, occuper les deux pôles, les deux positions, et l'endroit et l'envers. Donc ça, c'est le dernier livre aux éditions Jean-Cyril Godefroy, je crois, de Christian Combaz. Et donc, un livre à venir qui est la suite d'un livre plus ancien.
La réponse, plutôt.
Expliquez-nous un petit peu.
C'est assez simple. À l'âge de 30 ans, je publie, en surprenant un peu mon monde, un livre qui s'appelait Éloge de l'âge. Alors, on m'a dit, de quoi vous mêlez-vous? À 30 ans, vous n'avez pas à écrire ça. Et ce que je racontais n'était pas complètement stupide, parce que le livre s'est très bien vendu. Et je racontais, en gros, que la vieillesse n'avait pas pour vocation de se mettre au tennis à 68 ans. Ça se saurait. Tout l'âge classique montrait que les vieillards étaient ceux qui commençaient à regarder la vie sans y participer, la regardaient de plus en plus attentivement et en y participant de moins en moins, et que c'était le moyen de ne pas être traumatisé par une vieillesse qui est la privation brutale de vos moyens.
Uh-huh.
L'idée, c'est de refaire là, maintenant que j'ai l'âge du rôle, et ce sera le titre du livre, l'âge du rôle, d'interroger ce que je disais à l'époque au regard de ce que je vis aujourd'hui. Est-ce que je vois la nécessité d'observer la vie plutôt que d'y participer ? Est-ce qu'elle se manifeste ? Est-ce que je la ressens ? Et est-ce que je la prône autant qu'avant ? Ouais. Et oui, et surtout oui, maintenant qu'on essaie de nous infliger le précepte absolu du monde moderne, qui est la mise à jour. Réfléchissez un peu à ces mots, mise à jour. Vous avez la carte du magasin, déjà. Avoir la carte du magasin, ça devient une obligation. Ce qui,
c'est ce qu'ils nous demandent, en tout cas,
et
à
après,
la caisse.
Et après, on vous demande si elle est à jour. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans
enfin, moi, je n'ai jamais la carte du magasin, voilà. Donc on ne me demande jamais si
mais
elle est mise
dans
à jour.
Dans tous les domaines, je vous demande d'y réfléchir, on vous inflige cette nécessité de mise à jour chez Windows. Est-ce que votre système est à jour? Faites attention, vous ne pourrez plus évoluer si vous n'avez pas fait la mise à jour. Dans les drones DJI, c'est pareil.
C'est un flux continu d'informations.
Voilà, votre téléphone, de temps en temps, s'interrompt au milieu d'une tâche ou quand vous l'allumez pour vous dire « bougez pas, je fais la mise à jour ». On croit rêver, là. Et donc, on nous traite, biologiquement, comme si nous devions subir la même mise à jour périodiquement. Et mentalement aussi, puisqu'on vous dit, mais papy ou mamie, faut te mettre à jour sur les nouvelles notions. Moi, là, je dis stop, parce que justement, c'est le contraire du système de la vieillesse classique. La vieillesse classique comprend qu'il y a un point au-delà duquel on n'est plus susceptible d'être mis à jour, ou alors devant Dieu, mais pas devant Microsoft. Or, tout se passe comme si Microsoft est devenu Dieu. Et l'IA, attention à l'IA, parce que l'IA va être soucieuse de votre mise à jour, de plus en plus souvent. Elle vous demandera, quand vous allumez l'appareil, est-ce que tu es à jour ? Sans ça, je ne te réponds pas. Donc en gros, il y aura probablement par l'une des choses qu'on va nous infliger dans la vie future, ça va être l'obligation d'être sans arrêt au top, comme on dit maintenant, comme disent les jeunes.
Upgradé, pour employer un terme
voilà,
atroce.
Absolument. Ce qui est, je vous dis, c'est l'absolu contraire de la philosophie classique.
Ah oui.
La philosophie classique, on est à jour dès sa naissance, en fait. Il y a un processus naturel, et la vieillesse, on sent très bien que le processus naturel est en route. Et moi, il m'arrive très souvent de me dire, ah, c'est ben incroyable, si j'avais l'intelligence que j'ai aujourd'hui, à 25 ans, incroyable ce que j'aurais fait de différent. Et à quel point je me serais comporté de manière bien plus rusée vis-à-vis d'un tel et d'un tel. Mais justement, le but de la vie humaine, c'est de comprendre ça. C'est de comprendre qu'on est devenu bien plus intelligent qu'on ne l'était à 25 ans et qu'en fonction...
expérimenter
voilà.
Tout du moins.
Et donc, en gros, avec les mises à jour, si on vous injecte quelque chose à 65 ans...
Ah bah là, à chaque fois, ça écrase
Vous retournez à 25.
ça écrase l'information précédente.
Absolument.
Et vous perdez votre expérience. Donc, vous êtes un vieux jeune.
Exactement.
Voilà, donc ce livre est à paraître.
Alors ce livre qui s'appellera donc vers l'automne, comme d'habitude, qui s'appellera L'âge du rôle, est un dialogue avec moi-même où on republie, puisque je viens d'en récupérer les droits auprès de Fayard, à propos qu'il faudrait en dire un mot, parce que l'Empire Bolloré, c'est scandaleux. Je veux dire, ce mec est un véritable monsieur de Pourceaugnac de la littérature, du cinéma, etc. On nous dit, ouais, tu dis ça parce que c'est gaucho comme tu le traites de facho. Non, je ne traite pas de facho, je le traite d'ignorant. C'est quand même terrible. C'est un type qui a absolument zéro culture, zéro tout, quoi.
Ouais.
Et parce que moi, je suis un vieil auteur Fayard. Il a fait venir Bardella. Il a chassé les vieux auteurs Fayard.
C'est bien.
C'est incroyable. Donc, on vient de me rendre mes droits. Je ne suis pas mécontent de les avoir récupérés. Mais je suis très mécontent de ce que les quatre personnes qu'il a nommées à la tête de Fayard ne m'aient même pas pris au téléphone. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis quand même... J'étais à tu et à toi avec les académiciens, etc., il y a 20 ou 30 ans. Enfin, ça se passait extrêmement bien pour moi. Fayard était honoré de me voir arriver il y a 20 ans. Honoré. Ils m'ont acheté à 25 de mes livres. Et là, je suis traité comme un mendiant qu'on chasse dehors avec un bol de soupe. Vous voyez ce que je veux dire ? Par cette maison qui, soi-disant, a la plus haute estime pour l'intelligence. Mais écoutez, n'achetez plus un seul livre Fayard.
Est-ce que c'est la faute uniquement de Bolloré ou bien finalement l'institution elle-même a été mitée de l'intérieur ?
À partir du moment où vous avez dans une maison une conjonction entre Zemmour, Sarkozy et Bardella, cette maison est perdue.
Mais ça a été permis, ça. Ce glissement, il s'est fait. Il n'est pas
d'ailleurs,
que le fait de Bolloré.
Ça fait de très bonnes ventes. Vous avez vu Sarkozy qui fait des ventes énormes parce qu'il joue sur le côté people, quoi. Donc ça n'a plus rien à voir avec le contenu même des livres. Bref, on était à répondre aux questions et puis elles sont passées à l'as.
Alors, les questions, justement, Christian. Christian a totalement raison sur tout, nous dit cet auditeur.
Mais c'est pas une question.
Non, mais après, il continue.
Ah ouais, d'accord.
Pour la chaleur, ce n'est pas la première fois qu'il fait chaud en été. Les dirigeants sont des tarés, des pervers. Hélas, beaucoup de gens se laissent berner par ces fous. Pourriez-vous, si possible, évoquer les chemtrails avec une pensée à Claire Sévrac, bien
amicalement. Oui, alors écoutez, Claire Sévrac, je l'ai assez peu connue, mais les chemtrails, dans le Languedoc où je vis, il y a eu une période l'année dernière où j'en ai même parlé dans ma rubrique, où ça devenait grotesque. Il faisait un ciel limpide à 8h du matin, de 5 à 8, parce que je me lève toujours très tôt.
Oui.
Et puis à partir des premières traînées d'avion, et à partir de 9-10h, un ciel laiteux global.
Ouais.
Et c'était systématique tous les jours. Et donc, voilà, il y a effectivement Anguille sous roche.
Donc, il n'y a pas que de la géo-ingénierie, il y a aussi l'ensemencement des nuages.
Alors. Oui, il y a évidemment quelque chose de tout à fait anormal dans ce qui nous arrive.
Oui, ça c'est certain.
Et donc maintenant, les grands spécialistes américains de la question commencent à le dire publiquement. Donc on ne l'a pas inventé. Donc le chien éternue, je ne sais pas pourquoi.
Oui, oui, bah écoutez, je pense que c'est la clim. C'est la clim. Voilà, la on a Elisabeth Nonaccord qui arrive dans le studio et qui va se placer là où Arnaud lui a demandé de se placer. Voilà. Alors, vous disiez donc...
Je vais le dire avec mon chien.
Voilà, le chien dans les bras, c'est mieux.
Oui, je disais que cette, pour un provincial un peu attentif qui se lève tôt, genre 5h30, 6h, le phénomène l'année dernière a été incroyablement spectaculaire. Ciel limpide jusqu'à 8h, 8-9h.
Par contre, il faut essayer quand même de parler près du micro.
Oui, pardon. Ciel limpide jusqu'à 8-9h et après, ciel laiteux jusqu'à midi.
Oui.
Systématiquement tous les jours du mois d'avril au mois de juillet. Et donc on a eu quand même des soupçons légitimes. Alors maintenant, avec cette histoire iranienne, avec ces radars détruits qui repermettent la pluie en Irak et partout, là on commence à avoir plus qu'un doute, un doute favorable, je veux dire, ou défavorable à leur égard. Mais en gros, là encore, nous sommes en présence de véritables crimes. C'est-à-dire que il existe un crime climatique. Le détraquage ou détraquement du climat est un crime qui devrait être jugé comme tel. Déjà, les défoliants au Vietnam, c'était pas terrible, c'était de même nature. Eh bien là, il va falloir un jour qu'on s'occupe de mettre en procès les gens qui ont lancé ces opérations. Ou ceux qui y ont consenti, parce que je ne pense pas que lorsqu'un avion traverse le ciel français sans transpondeur pour envoyer des produits chimiques, il n'y ait pas des autorités de la DGAC, etc., qui ne soient pas complices. Donc on les veut dans le box, ceux-là.
Ouais. C'est clair. Alors, on continue avec les questions, Christian. Bonjour, excellente émission, comme à l'accoutumée. À propos de canicule, je vous recommande le récit que fait George Sand de celle de 1870.
Ben voilà, effectivement, c'est un...
45 degrés dans le Berry.
Mais oui, c'est un thème qui est assez connu. Je vous ai cité la première phrase de Bouvard et Pécuchet, ça en dit long. Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. C'est la première phrase de Bouvard et Pécuchet de Flaubert. Donc on ne nous raconte pas que des chaleurs pareilles à Paris sont exceptionnelles.
Alors, rien de nouveau sous le soleil, nous dit ce auditeur, qui nous lit je vais lire un extrait, justement, de ce récit de George Sand. Une grande fatigue, le travail en retard, un effort désespéré pour reprendre ma tâche au milieu d'un été que je n'ai jamais vu, que je ne croyais pas possible dans nos climats tempérés, des journées où le thermomètre à l'ombre montait à 45 degrés. Plus un brin d'air, plus une fleur au 1er juillet.
Au 1er juillet, oui.
Les arbres jaunis, perdant leurs feuilles, la terre fendue, s'ouvrant comme pour nous ensevelir, l'effroi de manquer d'eau d'un jour à l'autre, l'effroi des maladies et de la misère, pour tout ce pauvre monde découragé de demander à la terre ce qu'elle refusait obstinément, à son travail, la consternation de sa fauchaison à peu près nulle, la consternation de sa moisson misérable, terrible sous cette chaleur d'Afrique, qui prenait un aspect de fin du monde. Chaleur d'Afrique,
oui.
Dans le Berry, en 1870.
Oui, et attention.
Et on nous parle de l'accélération du réchauffement climatique.
C'est absurde. Et n'oublions pas que la plupart des gens habitaient dans des maisons en pierre assez
comment dire, de la épaisse. Pierre épaisse, oui, voilà, oui, tout à fait. Plus épaisse que ce que nous connaissons de nos jours.
Mon Languedoc, là, j'ai fait réinstaller le rez-de-chaussée qui est à moitié, parce que c'est une rue très en pente, qui est à moitié dans le sous-sol, puisque par définition, s'il y a une énorme marche d'escalier, une moitié de mon rez-de-chaussée se trouve dans la terre. 17 degrés la nuit. Je dors avec un pull. Donc, la climatisation naturelle chez nos ancêtres, ça existait aussi.
Et c'est ça. Ouais. Alors, on continue, mon cher Christian, avec beaucoup des réactions par rapport. Ça a beaucoup de succès, vos seins nus. Hein.
Ah bon, c'est bien. Ils l'ont retrouvé sur Internet, c'est très bien. Je suis très content parce que je m'étais fendu d'un petit discours, pour une fois, un peu ordonné.
Non, mais votre remarque sur les seins nus, pas tant le discours d'Internet.
Ah, oui. Allez voir sur Internet tout ce que j'en dis. C'est 20 minutes, ça s'appelle « L'Europe des seins nus sous les balcons
». Oui.
Et c'est une conférence qui avait été composée pour être lue en public, pour être projetée en public, à Marseille, lors d'un congrès d'intellectuels où il y avait Renaud Camus, je me souviens. Et voilà.
Cher Christian Combaz, merci pour l'ensemble de vos excellentes remarques. Et des seins nus, il y en a au Vatican.
Oui, y avait même davantage, puisque vous êtes au courant que Michel-Ange avait peint les attributs et qu'ils ont été voilés par le
par
pape.
Les Suédois en Espagne et les étudiants américains faisant au Mexique ce qu'ils ne feraient pas chez
exactement,
eux.
Exactement, exactement.
Parmi eux, nos American Young Leaders français, on en a vu des films. On comprend votre anti-américanisme.
Mais attendez, mon anti-américanisme est issu de l'expérience. J'ai vécu là-bas longtemps.
Oui, c'est ça.
Dans les meilleures conditions. Et les plus variés. Mais j'ai fait des reportages à Hollywood avec Claude Villers, avec toute la bande de France Inter pendant les bonnes années, enfin les années où j'étais jeune, 80, etc. Puis après, j'y suis retourné à titre privé. Et donc, je connais bien les élites hollywoodiennes décadentes, mais j'ai jamais mordu dans le gâteau de l'abondance à ce point-là, heureusement. Et puis, après, j'ai connu l'Amérique profonde, parce que j'étais journaliste, donc la Louisiane, les gens pauvres dans le Minnesota, etc. Donc honnêtement, c'est un monde que je réprouve, mais que je connais vraiment bien. C'est pas sur catalogue, quoi. Entre parenthèses, les chaleurs accablantes aux États-Unis, je n'ai jamais vu pire. La chaleur accablante que nous vivons aux États-Unis, c'est un mois par an à fond, partout, en Arizona, dans le Nevada. Donc, c'est incroyable. On découvre ça en Europe, mais c'est banal sur les autres continents.
Alors, aussi une auditrice, cher Christian, c'est amusant ça. Bonjour messieurs, je me souviens d'une visite d'un ayatollah à Rome, il y a une bonne dizaine d'années, au programme Le Musée du Capitole. Ce qui montrait la curiosité du dignitaire chiite, plus cultivé qu'un sunnite en théorie.
Ouais.
Mais la Vénus capitoline avait été dissimulée derrière un paravent.
Ça m'étonne pas, oui. Oui, on en est là, oui. Ouais. Non, mais c'est très parlant. Autrefois, l'Europe avait le culot de s'afficher avec ses seins nus sur les boîtes de biscuits. Vous vous souvenez, tout cet art, la mucha, l'illustration. Et c'était diffusé dans la terre entière. Il y avait nos boîtes de biscuits étaient envoyées dans la terre entière. Et les seins nus sur la boîte en métal, ça représentait la France de la civilisation. Et aujourd'hui, on est obligé de dissimuler tout ça. Ou de transformer ça en art abstrait pour pas déplaire aux gens.
Et ça, pour vous, c'est le puritanisme protestant.
En très grande partie. Ils nous ont...
Plus que finalement l'islam.
Ils se sont servis de l'islam pour planétariser leur côté collémonté, quoi.
Ouais.
Mais enfin, bon, entre parenthèses, là encore, c'est vertu publique, vice privée, hein. Parce qu'au fond, c'est ça qu'on supporte pas chez ces anglo-saxons, c'est que, je montre pour la galerie, je montre que je suis collémonté, mais en fait, je fais n'importe quoi en privé. Ben, c'est le cas de Starmer, par exemple, hein, qui a 4 enfants, mais qui se tape n'importe qui au masculin.
Il aurait des escort boys, comme
Des machins de surveillance, des caméras de surveillance qui le montrent en train d'embrasser un lord anglais de 30 ans à pleine bouche. Il y en a ou alors c'est un faux, mais je veux dire, on a plein de témoignages de gens.
On est quand même dans une dégénérescence.
Mais c'est n'importe quoi. Le mari de Nancy Pelosi.
Oui.
Qu'on a chopé.
Qui avait pris un coup de marteau sur la tête.
En train de se battre avec un gogo boy qu'il avait ramené complètement ivre d'un bar du coin. Enfin, bon,
ça, on nous avait pas dit ça. Hein.
Mais si.
Mais on nous avait pas expliqué que c'était un gogo boy qui venait du bar du coin. Ah non.
Exactement.
Ça, c'est ce que vous.
Mais enfin, c'est quand même bon. Notre Europe du Sud, notre Europe à Milan, l'Autriche, etc., on était tellement bon vivant avec ces histoires-là. De temps en temps, les banquiers se faisaient choper la culotte à la main, mais bon, ça n'allait pas plus loin. Et puis, ça n'avait pas le côté dégradant, systématique, industriel qu'avec l'affaire Epstein. Vous avez vu quand même que toutes ces jeunesses ukrainiennes, on se les faisait livrer, que le patron de chez je ne sais quel groupement d'assurance qui s'est fait gauler depuis disait aux enquêteurs « Ouais, une gamine de 10 ans, moi je la ramasse en Ukraine, elle est à Paris demain. » Et le type disait ça au téléphone à l'un de ses amis. Et donc, on a la bande. Donc le type était un ponte de des affaires françaises et il se flattait de pouvoir faire venir n'importe quelle gamine de 10 ans de Kiev directement le lendemain matin. Ouais. Où sont les réseaux? Est-ce qu'on a enquêté là-dessus? Qui est la gamine dont il parlait? Zéro, on ne le sait pas. Alors que les réseaux existent. Forcément, s'il peut l'avoir le lendemain matin, c'est qu'il y a un avion privé qui l'emmène. Qui a fait l'avion privé, etc. Enfin, il y a mille choses qui n'ont jamais été étudiées par les enquêteurs, qui disent on n'a pas que ça à faire.
On en a un en France aujourd'hui qui est spécialiste aussi, qui maintenant, et on commence à découvrir un peu toutes ces sordides histoires de satire, c'est Patrick Bruel, vous avez vu?
Oui, oui, oui.
Patrick Bruel.
Et le truc, c'est que...
jouait au poker une gamine de 15 ans.
Ah oui, oui, c'est lamentable.
Il a peur de rien.
C'est lamentable. Ouais. Mais bon, c'est... Au fond, c'est une application mondiale de la France du 18e. Il y avait dans la France du 18e des laideurs de même nature. Mais elles affectaient très peu de gens. Et le roi se fâchait assez souvent. Et ça, on le dit pas, hein, mais... Et là, personne ne se fâche, c'est ça qui est terrible. Personne ne se fâche.
C'est ça.
Sauf nous, peut-être. Le peuple va se fâcher. Il va être plus sévère que le roi, à mon avis.
Alors, on va regarder, merci. avant d'accueillir, merci, notre merci. Autre invité. Oh, bah, merci à Patrice, mais là, il y a une série de questions.
Hein. Bon, je réponds rapidement.
Alors, rapidement, hein, cette fois-ci, Christian. Oui. Le livre d'Emmanuel Leroy-Ladurie, Le climat depuis l'an 1000, montre bien que le climat a évolué depuis le Moyen-Âge.
Oui. Ouais, c'est sûr, mais quand on regarde depuis le Crétacé, on s'est beaucoup refroidi.
Nicolas Stocker, alors par contre, il se trompe, cet auditeur. Oui. Assisté de Lara Stam. Maintenant, Lara, elle fait des matinales maintenant le samedi matin sur Géopolitique Profonde. Donc, la retrouvez le mercredi. Mercredi, d'ailleurs, on se retrouvera sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal de la Résistance française à partir de 19h30. Et là, j'espère bien que Lara sera présente. Mais par contre, là, elle travaille ou elle est en train de terminer sa matinale, puisque sur GPTV, eh bien, nous avons des matinales de 7h à 10h du matin, je suis dans l'émission de Géopolitique Profonde, je me fais un peu de pub, permettez-le-moi, et les responsables de Radio Courtoisie me le permettront aussi. Donc de 7h à 10h, la matinale de Géopolitique Profonde, sur YouTube évidemment, du lundi au samedi dorénavant, et vendredi et samedi, eh bien c'est Lara qui assure l'animation de cette émission, et moi du lundi au jeudi. Voilà, excellente émission, en 1976, j'étais jeune, mais je me souviens qu'il a fait très chaud, et que nous l'avons tous très bien supporté.
Absolument.
Bah oui, 76.
Moi je vivais en short sur mon vélo, et ça a été un début d'été tout à fait délicieux.
Alors...
Ouais.
Alors, la 2G disparaît, je suis obligé de changer de téléphone.
Ah oui, ça, j'ai donné deux de mes anciens téléphones à des vieux du coin parce que leur téléphone Nokia n'allait plus marcher.
La DSL est en cours de destruction aussi.
Oui, mais là, vous savez pourquoi on attribue 1 giga de bande passante aux fermes éloignées chez moi. Vous savez pas pourquoi?
Non.
Parce qu'en mettant 1 giga de bande passante, vous êtes sûr qu'il regarde tout ce qu'il ne faut pas regarder quand on veut rester un rouerga ou un berrichon puretin. Avec un internet paresseux, vous pouvez à la rigueur élever vos enfants dans vos valeurs. Mais s'ils ont 1 giga de bande passante à la maison, vos valeurs n'existent plus. Voilà.
Vous inquiétez pas, on va vous donner la parole, Elisabeth. Mais on va essayer d'être un peu professionnel sur cette radio et attendre de s'exprimer une fois qu'on a été présenté. Merci Monsieur Combaz de cesser. Alors là, il est pas content contre vous de colporter le mensonge qui prétend que Trump serait à l'origine de l'arrestation d'Epstein. La vérité, c'est que c'est l'Herald Miami qui est à l'origine de la publication. Trump n'avait pas le choix, soit il témoignait contre Epstein, soit il plongeait avec lui. Du reste, il a tout fait pour que ce ne soit pas publié, le dossier Epstein.
Écoutez, moi je n'entre pas dans ces détails, j'ai toujours entendu dire, y compris par des gens qui semblaient connaître leur affaire dans le milieu journalistique, que Trump avait dénoncé son copain Einstein aux autorités judiciaires.
Ah, son copain.
Oui, bah, son copain, parce que, alors, quand vous connaissez le milieu des friquets new-yorkais, ils se fréquentent tous depuis toujours, et c'est normal, ils sont sans arrêt dans des parties aux pierres et partout, donc c'est normal qu'ils soient en photo tout le temps avec Epstein, puisque vous avez des photographes qui sont payés par l'hôtel pour ratisser la salle, par l'hôtel ou par la production pour ratisser la salle, donc c'est normal que, faisant partie de la vie mondaine new-yorkaise, il ait été sur toutes les photos. Ça ne veut rien dire.
Ouais. Allez, Bruel est un pare-feu, nous dit cette auditrice à l'affaire Epstein. Cela permet de ne pas parler de ce dossier brûlant, des mineurs drogués et abusés, mais avant d'être drogués, que faisaient-elles de leur plein gré dans les chambres d'hôtel ou les appartements des violeurs? Je n'excuse pas du tout ces actes, mais je m'interroge sur certaines dénonciations.
Le problème aussi, c'est beaucoup de drogue.
On parle de quoi, là? Parce que les dénonciations de l'affaire Epstein ou de l'affaire Bruel? Ouais. Je ne sais pas, chère auditrice, que vous vous interrogiez sur certaines dénonciations de l'affaire Bruel, encore, passe encore, mais enfin sur l'affaire Epstein, c'est
Mot, l'affaire Bruel aussi se caractérise par une activité quasi criminelle dans le domaine des paris en ligne.
Aussi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que nous avons découvert sur GPTV, en effet, avec Nordine, qui a fait plusieurs émissions, avec Mike Borowski. Exactement. Bon, allez, on est sur Radio Courtoisie. Priorisons aussi les dames. Elle est arrivée dans le studio depuis 10 heures maintenant. Elle n'a pas encore eu la possibilité de s'exprimer. Il s'agit, vous l'avez déjà eu à deux reprises dans des émissions précédentes, d'Elisabeth Nonaccord. Bonjour, ma chère Elisabeth, et bienvenue dans ce libre journal.
Bonjour à
vos
auditeurs. Merci de
me recevoir. Voilà, la technique est en train de régler au mieux votre micro. On l'avait coupé parce qu'on vous entendait dire toute votre satisfaction d'entendre Christian Combaz. Bon, ça va être un petit peu votre tour, donc ne laissez pas Christian Combaz reprendre la parole, sinon vous l'aurez perdu jusqu'à la fin de l'émission.
Je m'étais coupé moi mon micro. Voilà.
Et voilà, et Christian va pouvoir réagir, bien sûr, au Mazarina d'Elisabeth Nonaccord. Et Elisabeth Nonaccord, c'est un petit peu comme Michel Dumas, que nous avons normalement son, mais là on l'a toujours pas, il est toujours pas arrivé, ses quatrains. Et bien là vous avez les Mazarinades. Elle se moque gentiment de ce monde et entre autres du microcosme beaucoup. Elle est par ailleurs gentiment, mais c'est aussi une écrivaine engagée. Elisabeth, indéniablement, vous êtes quelqu'un qui ne mâchait pas vos mots, qui avait des convictions, qui les affirmait. Et c'est heureux ainsi. Et je crois que vous vouliez, entre autres, et ça c'est une autre partie, peut-être débuter, parce que je pense que c'est quelque chose dont on va beaucoup parler d'ici pendant deux semaines, c'est le 14 juillet. Le 14 juillet, je dirais que la souverainiste que vous êtes, de choc, a beaucoup de mal à le digérer.
Ah bon, je ne digère pas, je le dis autour de moi, j'essaye de provoquer le boycott. Et donc j'ai écrit
le boycott du 14.
Le boycott du 14, absolument. Et vous savez, les gens écoutent quand même. Hein. Moi, je disais grignotage la dernière fois. Et il faut aussi parler à notre entourage direct. Mmh. Hein. C'est vraiment important. Mmh. Hein. Donc, vous savez la manière dont ça fonctionne. Hein, c'est-à-dire, j'utilise de façon un petit peu lancinante la terminaison, une terminaison. Pour la macronade, c'était le art de Salobar, etc. Là, ici, c'est, comme je m'adresse aux militaires, c'est la terminaison A-I-R-E, R. Hein. Donc, c'est au fond une supplique que j'adresse aux militaires.
Oui. Hein,
sachant que je les connais, que j'ai travaillé avec eux en mission, que je les respecte beaucoup. Esprit d'équipe, chef de corps extraordinaire, ce qui valent mieux que des DRH de grandes entreprises. Hein, oui. Moi, donc... c'est parce que j'ai cette image aussi du monde militaire que je me permets d'adresser cette supplique.
Alors, normalement, les militaires, ils obéissent aux politiques. Donc la supplique, là, vous ne la faites plus aux hommes politiques. Vous
non,
croyez plus.
Non, parce que je pense qu'ils ont un devoir de désobéissance.
Un devoir de désobéissance.
Ils ont un devoir, je l'évoque. Donc j'y vais.
Allons-y. Voilà. Allez-y, Elisabeth.
Alors, vous allez défiler avec des tortionnaires qui, du moins de Bandera, fêtent l'anniversaire. Êtes-vous du peuple défenseur ou adversaire? Votre guerre nous plongerait dans un monde polaire, la glaciation, hein, anéanti par de dangereux turiféraires d'Hiroshima, unique bombe des US nucléaires. Il n'y a pas eu d'autre. Ouais. Êtes-vous au service d'une caste minoritaire ou d'une France qui ose se dire populaire? De grâce, refusez de jouer les auxiliaires d'une guerre qui servira d'abord, et comme toujours, c'est vrai, mais les milliardaires. Hein, ça a toujours été. La loi vous autorise à être réfractaire, à désobéir à des intrus locataires. Hein. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire,
les locataires de l'Élysée.
De l'Élysée, de Matignon, de tout, en fait. Oui. Hein, de, tout nos, de toutes nos institutions. D'un pouvoir.
C'est un bail précaire.
Ah, absolument, absolument. Et, ça devrait s'arrêter, renouveler ou pas. C'est quoi. D'un pouvoir usurpé. Et non égalitaire, puisque c'est l'ailleurs qui compte. Les Français, bon, sans interférer dans vos affaires, quoique, vous implorent de parler le français vernaculaire, en lieu et place de cette langue, ce globiche, cette langue véhiculaire, qu'il faudrait tous parler, surtout dans tous les régiments, de ne pas troquer vos rangers contre du verre. Alors, du verre, V-A-I-R.
Ailleurs, évidemment.
La fourrure.
Comme la pantoufle.
La fourrure, pour éviter
oui,
hein, le côté...
pantoufle de verre.
Un petit
oui.
peu, on va dire, chochotte.
De Cendrillon.
Voilà. complice de cette mascarade UE lunaire, absolument. J'en avais parlé la dernière fois. Vous ressemblerez à l'albatros de Baudelaire dans ses défilés, englué dans ce triste défilé vulgaire. Pensez à vos ancêtres. Valeureux factionnaires, pour qui sauver la France était prioritaire. Hissez les couleurs, bleu, blanc, rouge, tellement solaire. Intéressez-vous à ce monde multipolaire. Pour nos enfants, soyez-en une pierre angulaire. Mettez-vous au service des vrais, vrais visionnaires. N'écoutez pas ces politicards gestionnaires. Ne vous trompez pas d'ennemis, de partenaires. Et défendez les vraies valeurs sécuritaires. Et petite note aux gendarmes qui sont des militaires.
Oui.
Mais où sont passés nos gendarmes débonnaires, protecteurs des paysans, de la France agraire, lançant actuellement férocement leurs centaures suicidaires et laissant des pédocriminels se satisfaire, excusez-moi, mais monstrueusement de nos enfants, c'est pour la rime, dans les vestiaires. Mais j'ai une note positive,
oui.
étant donné que je déconne un peu, enfin bon. Toutefois, il y a un paradoxe. C'est en cette armée légendaire, oui. légendaire, j'ai confiance en des actes presque révolutionnaires. Comme, par exemple, afficher, ça serait bien, votre désapprobation unitaire ou solidaire, qui entraînera ou entraînerait un boycott solidaire. Enfin, pas solidaire, non, majoritaire, pardon, majoritaire. C'est ma supplique.
C'est une supplique très généreuse qui, que je partage totalement. On peut peut-être demander à Christian Combat s'il a une réaction d'ailleurs.
Ben écoutez, ça me rappelle la réaction qui a été assez peu commentée finalement de l'armée américaine au passage de Biden après son investiture, puisqu'ils se sont retournés unanimement pour tourner le dos au cortège présidentiel. C'est un précédent qui peut très bien être, pratiqué en France aussi, si on en a le courage. Il y a ça, ou il y a éventuellement le coin de tissu jaune fluo qui dépasse de la poche. Ce genre de choses.
Des signaux, ils peuvent envoyer des signaux. Voilà.
Jaune fluo qui dépasse de la poche.
C'est, par exemple, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir...
Qu'est-ce que vous proposez, justement? Parce qu'en effet, il y aura une manifestation, on le sait, et Elisabeth est une patriote sincère, ouais. et sera probablement à 17h ce jour-là.
Mais je serai en Corse, mais j'irai voir les légionnaires.
Vous y serez de cœur.
J'irai voir les légionnaires de Calvi.
Voilà. Donc, à 17h, il y a le 14 juillet, la manifestation des patriotes, justement, qui se veut être le véritable défilé. Mais après tout, il y a ceux qui pourraient dire, il faut dire non à ce défilé de Macron. Donc, Christian, qu'est-ce que vous proposez?
Moi, je propose rien. Je suggère, oui. j'imagine, parce que si j'avais à faire une scène de film où l'on manifeste son désaccord, où il y a plein de méthodes, mais les plus faciles, si vous avez tête nue, vous teignez vos cheveux sur 3 mèches, dans la couleur qui vous plaît le plus, mais ça peut être de l'orange de chantier, par exemple. Ça, c'est facile. Et vous pouvez toujours prétendre que c'est un plaisantin qui vous l'a fait. Bien sûr. Sur le plan juridique, on peut pas vous envoyer au trou pour une chose pareille.
Est-ce que vous croyez qu'on aura droit de citer sur les Champs-Élysées? On a l'impression saluer les platanes, Macron.
Non, parce que je pense qu'en fait Macron est dans une situation de danger personnel très grand. Là, bien plus que les autres années, à cause de ces rodomontades en Ukraine pour essayer de perpétuer l'idée de la guerre alors que plus personne n'en veut, il est physiquement à risque. Enfin, il y a un risque sur lui, sur sa tête, qui existe. C'est évident.
Et donc,
ils vont limiter tout contact avec le public.
La fête du 14 juillet, fête de la nation, fête
déjà,
populaire.
C'était
donc
plus ou moins
sans le peuple.
Les autres années, on voyait très peu les gens. Ouais. Et là, à mon avis, ça va être encore pire.
On verra les chefs d'État et on verra les militaires ukrainiens.
De toute façon, m'avance pas trop, mais je peux vous dire que si on regarde l'histoire des empereurs romains, le mal est toujours sorti des rangs même des proches de l'intéressé. Par contre, ça sert à rien de repousser le peuple, parce que c'est pas du peuple que sortira le type avec un poignard.
Oui, c'est Néron, quoi. C'est Néron.
C'est Néron. C'est Néron. Et puis n'oublions pas.
Agrippine,
entre parenthèses, il peut très bien envoyer Agrippine se faire voir, puisque ça a été le cas dans la réalité. Néron a envoyé Agrippine se tuer. Ça n'a pas réussi, et après, il l'a fait noyer en coulant son navire.
Malheureusement, c'est né Sénèque aussi.
Oui, absolument.
Alors, vous n'avez pas d'autres suggestions. Justement, je comptais sur vous.
Non, ça, c'est pas des suggestions. Mais je pense que dans l'affichage d'une couleur, tous la même, c'est une assez bonne méthode. Oui. Il y a ça, ou alors, effectivement, la marque physique sur la joue ou sur
tourner le dos.
Tourner le dos, éventuellement, oui. Éventuellement.
On rappelle, oui, mais alors ça, tourner le dos, déjà, il trouve à filtrer le son lorsqu'il est hué, alors si on tourne le dos. Oui. Par contre, c'est vrai qu'une provocation. Alors, vous qui êtes on sait qu'il y a la bête à bon Dieu, la coccinelle.
Ça vous concerne.
Vous aimez bien ces signes visuels.
Écoutez, alors, il est arrivé une chose assez amusante au tout début de cette vogue des coccinelles, puisque, en gros, j'ai essayé d'acclimater la coccinelle comme objet de résistance aux nuisibles, puisqu'elle mange les nuisibles dans la nature. Et donc, quand j'ai lancé ça il y a longtemps, il y a 2-3-4 ans, et bizarrement, 15 jours après, il y avait une fête du 1er de l'an aux Champs-Élysées, et sur l'Arc de Triomphe, on a vu, en projection, circuler une coccinelle pendant 6 secondes. Donc, quelqu'un de la production, je peux pas penser que ce soit innocent. Non, mais quelqu'un de la production, à mon avis, un jeune avait vu le truc sur Internet, il s'est dit, tiens, pourquoi pas, parce qu'il y avait pas mal d'animaux qui circulaient sur l'Arc de Triomphe, ils ont mis une coccinelle, et ça a été perçu ainsi comme une allusion par beaucoup de gens. Et là, le dernier épisode, on va voir si ça marche, j'ai envoyé mon livre qui a été traduit en anglais, le dernier, à Candace Owens, avec la coccinelle sur la couverture. Avec un peu de chance, elle se met une coccinelle lors d'une prochaine livraison. On va voir.
Eh ben, il reste 30 secondes. Pardon. Un cinéaste américain, nous dit cet auditeur, Stanley Kubrick, a réalisé Eyes Wide Shut, les yeux grands ouverts, en 1999. Oui. Peu de temps après, il est décédé, alors que le film dénonçait les travers d'une certaine bourgeoisie new-yorkaise. Ouais. Bon, ben, ma chère Elisabeth, vous n'avez pas eu beaucoup de temps, parce qu'on a été trop bavard. Mais on aura au moins eu la chance de voir ce magnifique petit poème sur le 14 juillet, qui nous aura permis de parler de ce sujet. On en reparlera. Donc il faudra que vous reveniez dans une séance supplémentaire. Continuez à nous conter ces alexandrins.
Oui, j'en ai pas mal sous le coude.
Je sais que vous en avez un petit paquet sous le coude. C'est terminé. Cette émission se termine. Voilà, donc merci à Elisabeth, bien sûr. Merci, Christian, pour cette agréable matinée passée ensemble. Vous voyez, c'est la musique du générique. J'adore finir comme ça.
Encore moins répréhensible par les armées. Si vous mettez les yeux au rimmel, ça se verra et c'est impossible à blâmer.
Et c'est impossible à blâmer. Voilà, chers auditeurs, passez une excellente journée et je vous dis à samedi prochain et à mercredi même. Au revoir.
Vous venez d'entendre le libre journal de Géopolitique Profonde dirigé par Nicolas Stocker, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 27 juin 2026 de 9h à 10h30 et réalisé par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse. Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.